Fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans la Fabrique politique. Comme d'habitude, je vous propose pendant une petite heure de soulever le capot des institutions publiques de notre pays pour observer les mécaniques à l'œuvre dans tous les domaines de notre vie en commun, comprendre qui fait quoi, qui décide pour nous et parfois fabrique les politiques avec nous. Si, si, ça arrive. Aujourd'hui, pour la première émission enregistrée en 2019, on vous garantit une émission 100% sans grand débat, sans Macron, sans Castaner, et on se penche sur une machine essentielle à nos vies et même à nos survies, l'hôpital public. D'un côté, on considère en France avoir une chance exceptionnelle, disposer d'établissements publics ouverts à tous les citoyens qui ont besoin de soins, sans sélection financière, et d'une sophistication extrême, d'un niveau de performance que le monde entier nous envie. Et puis de l'autre, l'hôpital apparaît souvent comme un colosse au pied d'argile, toujours au bord de la rupture, courant derrière les moyens dont il a besoin pour fonctionner correctement, à la recherche d'une efficience maintenant quasi mythique, dont parlait déjà Simone Veil, alors ministre de la Santé, en 1977.
Quant au coût, je crois qu'on ne diminuera pas et qu'on n'empêchera pas le coût de la journée d'hospitalisation de continuer à augmenter, compte tenu de la technologie médicale de plus en plus lourde, de la nécessité de médicalisation supplémentaire des hôpitaux et de la nécessité aussi d'augmenter progressivement le nombre de personnels soignants et que la modernisation coûte très cher. Alors, cette journée d'hospitalisation augmentera. Je crois donc que ce qui est nécessaire pour éviter une augmentation du coût pour la sécurité sociale, c'est d'évaluer l'efficacité des lits et l'efficacité des services. Et tout à l'heure, le professeur Béraud a abordé cette question de savoir dans quelle mesure ce que nous faisions était efficace ou pas et quelle était l'efficacité du progrès médical. Il est indispensable de se préoccuper tout d'abord de planifier les hôpitaux, de ne construire de nouveaux hôpitaux, de ne prévoir des lits que dans la mesure du besoin, d'éviter des hospitalisations qui ne sont pas indispensables et de soigner à domicile tous les malades qui peuvent l'être. Ceci aussi bien pour éviter des dépenses inutiles que pour le confort même des malades. Et puis, en ce qui concerne les services eux-mêmes, de planifier les services dont on a besoin. Je prends un exemple. Si par exemple on a 1000 lits de réanimation intensive en trop à Paris, c'est un coût de 700 millions et 700 millions nouveaux en superflu pour la collectivité, car ces lits coûtent le même prix qu'ils soient occupés ou qu'ils ne le soient pas. Et il faut maintenant, petit à petit, planifier de la même façon pour tous les services de haute technicité et au surplus, pour chacun de ces services, apprécier ce que font de plus en plus les Américains maintenant, l'efficacité des techniques employées pour comparer celles qui sont, compte tenu du coût, le plus nécessaire, le plus efficace, car on ne peut plus dire que la santé n'a pas de prix. Il est indispensable que tout argent dépensé par la collectivité le soit pour une amélioration de la santé, une amélioration du confort, mais en tout cas que ce ne soit pas dépensé inutilement.
Et vous avez une idée des économies que ça peut réaliser ?
Eh bien, déjà cette année, nous avons mis en œuvre un contrôle de gestion des hôpitaux et une amélioration de toute l'organisation et nous espérons faire en 1977 un milliard d'économies de ce fait.
1977, il y a 42 ans. Et voilà, il y a cette étonnante actualité de ce que dit Simone Veil. On croirait entendre notre actuelle ministre, Agnès Buzyn, face à la gronde des personnels des hôpitaux ces derniers mois et puis encore ces derniers jours. Voilà, alors pour vous aider à comprendre les enjeux auxquels fait face l'univers hospitalier et à vous faire par vous-même votre idée, je vous propose un exercice basique, simple, comprendre comment marche un hôpital. Et nous allons le faire grâce à notre invité, le professeur Stéphane Gaudry, médecin réanimateur, professeur des universités, praticien hospitalier, qui travaille dans deux hôpitaux proches de Paris, ceux de Bobigny et de Bondy. Bonjour Stéphane Gaudry.
Bonjour Mathieu.
Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Stéphane, c'est un peu l'habitude dans l'émission, je vous propose de commencer par quelque chose de très concret, de faire un tour d'horizon des acteurs de l'hôpital à partir d'une petite histoire. Disons que je suis un patient, là, victime d'une crise cardiaque, les pompiers viennent me chercher et m'amènent à l'hôpital le plus proche. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros qui me prend en charge quand j'arrive et quel sera un peu mon parcours dans les services si tout se passe bien? Qui va s'occuper de moi?
Alors, tout va dépendre un petit peu du niveau de gravité initial. C'est-à-dire que si votre situation nécessite des soins très urgents, vous allez passer directement dans un service dit de réanimation ou de soins intensifs, cardiologique, par exemple, dans le cadre de cet exemple. Et à ce moment-là, vous allez être d'emblée pris en charge par une équipe composée de médecins et d'infirmières et d'aides-soignants. Alors, ça, c'est la situation la plus grave, mais en fait, pas la plus fréquente. La plus fréquente étant la situation où les patients arrivent dans un secteur d'urgence, qui font l'actualité actuellement. Et là, vous êtes vu par un infirmier ou une infirmière d'accueil et d'orientation, dont le terme est IAO, donc, et qui va vous orienter vers une stratégie plus ou moins urgente où vous allez voir le médecin soit dans les 20 minutes, soit dans l'heure, soit plus longtemps en fonction du niveau de gravité.
Donc elle fait une sorte d'évaluation, une première évaluation.
Exactement, une sorte d'évaluation de l'urgence à avoir un avis médical. Et donc une fois que vous serez passé dans ce service d'urgence, eh bien vous serez orienté soit vers un service de réanimation, s'il y a une erreur sur l'orientation initiale et que la situation est beaucoup plus grave que prévu, soit dans un service de médecine, en l'occurrence ici, un service de cardiologie, où là, vous allez être pris en charge par une équipe dans un service standard de médecine.
Et alors, les services de médecine, j'imagine que dans un hôpital, il y en a de tout type. Dans un hôpital classique, des différents services de médecine, il y en a combien à peu près c'est quoi les grandes...
Alors, c'est difficile de parler d'un hôpital type.
D'accord.
Mais surtout actuellement, avec cette habitude qu'ont maintenant les hôpitaux publics de regrouper différents services, parfois même dans des services qui sont dans des hôpitaux différents. Donc en pratique, il faut une certaine cohérence dans un hôpital. Donc on peut imaginer que un hôpital va s'orienter plus, par exemple, vers des soins liés à des problèmes gastro-intestinaux et va recruter des médecins et du personnel pour créer des services de chirurgie digestive, d'hépatologie, de gastro-entérologie. Mais de toute façon, maintenant on le sait très bien, il va y avoir besoin de certaines spécialités comme la cardiologie, comme la pneumologie, qui sont des spécialités qui de toute façon doivent intervenir à chaque niveau de la prise en charge des malades. Donc c'est difficile à dire, c'est des stratégies qui sont décidées par les directions des hôpitaux.
Ça peut varier selon les hôpitaux.
Et elle peut varier selon les hôpitaux avec, bien entendu, des orientations différentes qui sont un petit peu orientées par l'Agence régionale de santé, l'ARS, au niveau régional, qui décide que tel hôpital va s'orienter plutôt, je ne sais pas, vers la prise en charge des pathologies digestives et tel hôpital plutôt vers des pathologies cardiaques avec la réunion de chirurgiens cardiaques, de cardiologues, de rythmologues, enfin des personnes qui vont participer à la prise en charge spécifique.
D'accord. Et alors justement, un point qu'on n'a pas forcément très distinctement en tête, c'est médecine versus chirurgie. On est d'accord que ce sont deux choses relativement distinctes avec des services et des modes de prise en charge différents. Ça, vous pouvez nous en dire un mot? Dans un hôpital, comment ça se passe entre les deux?
Alors, en pratique, la distinction, finalement, elle vient surtout de la spécialisation des médecins.
D'accord.
Puisque, au cours de leur parcours, ils ont un moment à choisir entre une spécialité médicale ou une spécialité chirurgicale. Mais globalement, la structure d'un service... que ce soit un service de chirurgie ou un service de médecine, est à peu près la même. Ça ne change pas grand-chose. La seule différence, c'est les choses qu'on y pratique. Et en l'occurrence, dans un service de chirurgie, il y a un bloc opératoire dans lequel il y a une activité de chirurgie. Mais il n'y a pas que ça. Un service de chirurgie prend en charge également des malades qui ont des problèmes médicaux. Et donc, il doit y avoir dans les services de chirurgie également du personnel qui est formé à la prise en charge de problèmes médicaux standards. Et donc, très souvent maintenant, quand on veut de la qualité, il y a, dans un service de chirurgie, des chirurgiens et des médecins pour la prise en charge un petit peu globale.
Un mix des deux. Okay. Et alors, dans un service, donc là, on voit bien la géographie un peu des services. Au sein même d'un service, maintenant, si vous pouvez nous décrire les différentes familles d'intervenants du soin dans un même service, on voit bien quand on va à l'hôpital qu'on a à la fois affaire à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, etc. Vous pouvez nous refaire un petit portrait de ces différentes familles?
Oui, alors, de manière un peu assez simple, on distingue trois grandes familles au sein d'un hôpital. C'est le personnel médical, le personnel non médical soignant et le personnel non médical administratif.
Okay.
Donc, bien entendu, le personnel non médical administratif n'intervient pas directement dans le soin.
Ouais.
Il reste donc deux familles, le personnel médical, et là, vous allez avoir une variété très importante de personnel allant de l'interne, donc les jeunes en formation, mais qui ont déjà une certaine capacité qui leur permet de prendre en charge les malades, et puis des médecins plus ou moins juniors jusqu'à des médecins seniors. Et ça, en fonction de l'organisation de l'hôpital, on peut avoir un grand panel de médecins différents. Après, sur le personnel non médical soignant, eh bien, il y a les soignants directs qui sont directement au contact du malade, que sont donc les aides-soignants, aides-soignantes et infirmiers-infirmières. Mmh. Et puis, il y a les cadres qui sont des cadres de personnes non médicaux qui organisent, si vous voulez, l'organisation, qui organisent le service et la prise en charge côté personnel non médical.
C'est un peu des chefs d'équipe, on pourrait dire ?
Exactement, c'est des managers, c'est des chefs d'équipe. Okay. Je dirais que dans un service, vous avez un manager du personnel médical qui est le chef de service, et un manager du personnel non médical qui est le ou la cadre.
Alors du coup, en termes de coordination au sein d'un service et même entre services, là, quand vous décrivez ça, on a l'impression de quelque chose de assez cloisonné, assez hiérarchisé. Dans la vraie vie, ça se passe comment ? C'est très variable selon les hôpitaux, les services, où il y a, et est-ce que ça évolue, cette manière de se coordonner entre les différents corps médicaux, on va dire ?
Alors, bien entendu, ça dépend un petit peu de dans quel service on se trouve, dans quel hôpital, quelle est un peu l'histoire de l'hôpital, ouais. Comment c'est organisé cet hôpital-là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hôpitaux étant de plus en plus réunis, on a des structures qui sont de plus en plus grandes, ouais. Et donc on a des gens qui interviennent dans plusieurs services. Je donne l'exemple du cadre paramédical. Eh bien, il va pouvoir encadrer différents personnels dans différents services. Okay. Et donc, on a des structures qui sont plus aussi simples qu'avant, où avant, on parlait d'un service, un hôpital, et puis au-dessus de l'hôpital, il y avait, par exemple, une agence régionale de santé. Mmh. Et maintenant, c'est un petit peu différent, puisque comme on a réuni des structures, on a créé, il y a quelques années, ce qu'on appelle des pôles, et ces pôles peuvent réunir plusieurs services d'un même hôpital, et permettre ainsi un encadrement un petit peu plus large.
D'accord. Et entre les voilà entre aides-soignants, aides-soignantes, infirmiers, infirmières, médecins, cette idée de cette image d'Épinal qu'on a un peu de quelque chose d'assez cloisonné avec chacun qui reste un peu sur ses fonctions sans trop se parler, ça c'est quelque chose qui est plus vraiment vrai aujourd'hui ou si encore un peu ça bouge, qu'est-ce que vous en diriez ?
Alors je vais avoir du mal à faire une généralité, ouais, mais ouais. Ce qui est vrai c'est que dans mon expérience en tout cas, dans la structure dans laquelle je travaille, c'est-à-dire au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris, on ne trouve pas vraiment ce cloisonnement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche d'équipe, un travail. Alors, bien entendu, il peut y avoir des exceptions d'un service à l'autre en fonction de comment s'organisent les choses, de l'ambiance entre les gens qui travaillent. Mais néanmoins, dans les services qui travaillent bien, il y a un vrai esprit d'équipe. Et donc, il y a un échange qui est indispensable, hein, bien entendu. Alors, en particulier dans les spécialités d'urgence et de réanimation dans lesquelles je travaille. Et bien entendu, si vous n'avez pas d'échange entre le médecin et l'infirmier ou l'infirmière, eh bien, vous allez aboutir à une baisse de la qualité des soins. Il faut des échanges, il faut un engagement vers une discussion. Pourquoi la décision a été prise dans ce sens-là? Qu'est-ce qui a été fait? Quelle a été la constatation sur le malade? Tout ça, c'est des informations qui sont échangées, quel que soit notre statut personnel médical ou personnel non médical.
D'accord. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les personnels non soignants. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui est assez effectivement difficile à percevoir de l'extérieur. En fait, dans l'hôpital, il y a aussi l'univers des personnels qui ne soignent pas, qui sont donc l'administration de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Donc, j'imagine que quoi, ils font la logistique, ils s'occupent des bâtiments, du matériel, des médicaments. Qu'est-ce qu'ils font en fait ces personnels administratifs ?
Alors oui, il y a une grosse partie de personnels qui est indispensable au fonctionnement de l'hôpital, hein, pour en effet prendre des décisions liées à l'immobilier, au mobilier, au matériel, etc., à la logistique et au bâtiment. Et donc il y a cette troisième entité dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle le personnel non médical administratif. Okay. Donc ça c'est une structure assez importante, hein, dans un hôpital. Mais on a tendance, et on pourra peut-être en discuter tout à l'heure, à constater que par contre là il y a probablement un déficit de communication entre cette entité-là administrative et le personnel médical et non médical soignant.
D'accord. Mais c'est eux qui... Est-ce que c'est eux les patrons? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont... est-ce que c'est eux dans lesquels on trouve la direction de l'hôpital? Est-ce qu'ils ont un pouvoir hiérarchique sur les médecins? Est-ce qu'il y a, il y a un leadership comme ça du côté administratif ou c'est plus précisément ça qui est difficile?
Alors, officiellement, le personnel administratif et la direction d'un hôpital, parce que désormais la direction d'un hôpital, un hôpital public est dirigé par un personnel administratif, donc ouais. Ce ne sont pas des médecins, ouais. N'a pas de pouvoir hiérarchique sur la décision médicale. Mais il a un pouvoir hiérarchique sur l'organisation, la logistique, etc.
D'accord.
Et il y a un événement majeur dans l'évolution, on va dire, historique de nos hôpitaux. C'est la loi HPST de 2009 qui voulait dire donc hôpital, patient, santé, territoire. Et cette loi, en fait, qui est apparue en 2009, a donné plus de pouvoir justement à l'administration.
D'accord.
Pour l'organisation des hôpitaux, la logistique, etc. Et du coup, on va dire, c'est ça dans le sens où on pensait à l'époque que grâce à cette loi HPST, en redonnant le pouvoir aux administratifs, on allait rétablir les comptes publics.
C'était dans une logique de rentabilité, en fait.
Bah, tout à fait, oui. C'était une logique de rentabilité, puisqu'on pensait à l'époque que ça permettrait de combler le déficit, en tout cas de revenir à l'équilibre. La suite a prouvé que non.
On va y revenir dans quelques instants, justement, sur cette question des objectifs à atteindre pour les hôpitaux et puis de cette question financière. On va d'abord faire une petite pause musicale. On se retrouve dans un instant. On écoute Pavement et la chanson s'appelle, avec mon accent anglais de derrière les fagots, Father to a Sister of Thought.
Comforted here. Come
Vous êtes toujours sur Radio Campus, c'est la Fabrique politique. On parle aujourd'hui du fonctionnement des hôpitaux publics avec le professeur Gaudry, médecin réanimateur qui travaille dans les hôpitaux de Bondy et Bobigny en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Stéphane, je vous propose de parler maintenant de la place des pouvoirs publics dans le pilotage de la gestion des hôpitaux. En fait, vous le mentionniez il y a quelques instants à travers cette loi de 2009, donc il y a 10 ans, HPST. Alors, avant de rentrer dans cette question-là, peut-être juste pour replacer le contexte, est-ce que vous pouvez nous dire qui donne des ordres finalement aux hôpitaux? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est l'Agence régionale de santé? Est-ce que c'est la Haute Autorité de la Santé? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, qui sont un peu les donneurs d'ordre au-dessus de la tête d'un hôpital?
Alors, si on résume un petit peu comment se passe un petit peu la direction des donneurs d'ordre, il y a trois niveaux, hein. Il y a un niveau national, un niveau régional et un niveau local. Okay. Au niveau national, le plus important, c'est la loi de financement de la sécurité sociale qui est votée par le Parlement, qui est donc mise en application et dont le ministère de la Santé est responsable. Le ministère de la Santé donne des directives aux différentes agences régionales de santé, et là on passe au niveau régional, et les agences régionales de santé, les ARS, eh bien, organisent la prise en charge hospitalière sous la forme de groupes hospitaliers de territoire, pour essayer, comme ce que je vous disais au début de l'interview, réunir des hôpitaux avec des spécificités un petit peu de chacun pour qu'il y ait une cohérence au niveau régional et non pas une concurrence. D'accord. Et puis il y a le niveau local, c'est l'hôpital lui-même, et au sein de l'hôpital, il y a un directeur général et une direction ou un directoire en fonction de la grosseur de l'hôpital, dans lequel à ce moment-là, on peut trouver des médecins qui sont représentés par ce qu'on appelle la CME, hein, la commission médicale d'établissement. Alors, il faut savoir que la commission médicale d'établissement, suite à la loi justement HPST, a perdu un grand nombre de ses pouvoirs.
Ils ont perdu du pouvoir depuis 10 ans, en fait.
Elles ont clairement perdu du pouvoir. Alors, je donne un exemple très simple, hein. L'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est 39 hôpitaux, c'est 100 000 professionnels, 12 000 médecins, 52 000 personnels soignants. Donc, c'est une structure gigantesque avec 7,5 milliards d'euros de budget. Et bien, cette structure-là est dirigée par un directeur, et ce directeur qui est actuellement Martin Hirsch.
Un administratif. Donc, dirige l'assistance.
Voilà, qui est directeur administratif, et donc dirige l'assistance publique hôpitaux de Paris. Associé à lui, il y a le directeur de la CME, hein, donc la commission médicale des établissements centrales de la PHP, mais qui vient qu'en numéro 2, et qui donc va pouvoir quand même influencer les décisions, mais globalement les décisions sont prises par le directeur général sous la tutelle du ministère de la Santé.
Et alors du coup, ces hôpitaux dirigés de la manière dont vous venez de décrire, ils ont quoi comme objectif à atteindre? C'est plutôt des objectifs, je ne sais pas moi, en nombre de patients, en rentabilité financière, en qualité de service mesurée d'une façon ou d'une autre. Quels sont les types d'objectifs en général qu'on fixe, que les autorités fixent à des groupes d'hôpitaux ou à des hôpitaux?
Alors, il y a bien, sur les objectifs, il y a un débat, parce qu'il y a une tension toujours entre un objectif de qualité de soins et un objectif de rentabilité. On l'aura bien compris, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Si vous voulez être très rentable, probablement il y a un moment où vous allez franchir la limite, où vous allez devoir diminuer un petit peu la qualité de la prise en charge. Et donc c'est sûr qu'il y a des objectifs qui, peut-être il y a une trentaine d'années, étaient des objectifs de qualité de soins avec des vrais projets médicaux qu'on continue à avoir, hein, bien entendu, heureusement. Mais les objectifs de rentabilité sont, ont largement cru ces dernières années du fait justement des déficits des finances publiques. Et donc on est passé de structures où il y avait un vrai objectif de qualité de prise en charge, etc., à des structures qui mettent en avant la nécessité de rentabilité et d'équilibre financier. Et pour avoir un équilibre financier, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut augmenter le nombre de patients et diminuer le personnel. Puisque si vous augmentez le nombre de patients, vous augmentez les rentrées d'argent dans un hôpital public. Si vous diminuez le personnel, vous diminuez les dépenses, puisque environ 70% des dépenses d'un hôpital public, c'est la masse salariale.
Et alors, quand on voit des services ou des hôpitaux qui ouvrent ou qui ferment, enfin là, je pense plutôt à des hôpitaux qui ferment, on pense à ces histoires qui défrayent la chronique régulièrement sur une maternité, par exemple, qui ferme quelque part dans des villes de petite taille. C'est lié à ça et c'est décidé par qui, en fait, ces décisions-là?
Alors, sur ce point-là, je pense que les choses ne sont pas tout noires ou tout blancs. Hein. C'est-à-dire que Sur ce point-là, il y a deux points. Il y a la rentabilité, probablement, qui est souvent mis en avant lorsqu'on s'oppose à la fermeture. Je donne un exemple, par exemple, d'un service d'obstétrique qui fait des accouchements. Donc là, on peut en effet se dire, bah oui, si je ferme une maternité qui est juste à côté de chez moi, ben je vais en pâtir, puisque je ne vais pas avoir ce service-là à côté de chez moi. Néanmoins, il y a également un problème de qualité. C'est-à-dire que si vous prenez un service qui fait, je donne un exemple, 50 accouchements par an, vous imaginez bien que la qualité ne sera pas la même que dans un service qui en fait 4000. Et donc, dans un service qui en fait 4000, les habitudes, les pratiques...
Ah, le savoir-faire,
Le savoir-faire, mais également le personnel, hein, puisque quand vous avez 4000 accouchements par an, vous êtes sur une structure avec énormément de personnel, des anesthésistes, des pédiatres, pas que des obstétriciens, et donc vous allez augmenter la sécurité du soin. Et donc, c'est pas si simple que ça. La décision doit se prendre justement en fonction de l'activité au sein d'une structure, et il faut pas descendre en dessous d'un certain nombre d'activités. Je donne cet exemple des accouchements parce que c'est très simple à comprendre. Et puis, également, voilà, donc la qualité, la rentabilité. C'est des décisions qui ne sont pas si simples à prendre et qui, justement, sont parfois un peu mal expliquées aux gens.
Alors, il y a un autre enjeu qui n'est pas simple à comprendre et qui revient très souvent dans le débat public, c'est la question du nombre de soignants dans les hôpitaux. Là, vous parliez effectivement du poids des salaires, hein, tout bêtement, mais il y a cette question globale de la démographie médicale avec les fameux numerus clausus qui défrayent aussi régulièrement la chronique. On se dit, finalement, est-ce qu'il y a assez, pas assez, trop de médecins en France? Est-ce qu'on en forme assez, pas assez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Est-ce que c'est un vrai enjeu? Qui décide du nombre de soignants formés en France? Et quelles sont aujourd'hui les tendances?
Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau global, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin de plus de médecins en France? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. On a tendance à dire actuellement, en tout cas, que il y a un déficit et c'est pour ça qu'on a levé le numerus clausus, qui est la décision qui a été prise il y a quelques mois.
Là, c'est fait. Ça va se.
Oui, alors c'est une décision qui est désormais prise. Hein, donc d'accord. Ça va être à partir de l'année prochaine, le numerus clausus va probablement disparaître. Et mais est-ce que, par exemple, une faculté qui formait, je ne sais pas, 100 patients par an va en former brutalement d'une année à l'autre 200? C'est très peu probable. Donc, cette levée du numerus clausus va probablement aboutir à la même chose. C'est-à-dire, il y a toujours 100 médecins, excusez-moi, de former.
Mais qui va décider ça? Qui va décider si ce sera toujours 100 ou si ça passera à 200?
Et ben, justement, comme il n'y a pas de numerus clausus, personne ne décide. C'est la faculté qui va décider, l'université qui va se dire, moi, je ne suis pas en capacité d'accueillir, de doubler le nombre de médecins formés. Donc, je ne vais pas en laisser passer en deuxième année plus que X.
Donc l'université aura plus de pouvoir finalement sur le nombre de...
En levant le numéro de clausus, je pense que l'université aura plus de pouvoir. Maintenant, d'accord, ça va être très difficile à appliquer. On ne sait pas exactement dans quel sens on va. D'accord. Après, il y a un deuxième niveau qui est le nombre de médecins par spécialité. Donc, je donne un exemple. On sait actuellement qu'il faut former plus de médecins de médecine générale, qui est une spécialité qui est en manque actuellement de médecins. Et puis, il y a des spécialités qui sont pour l'instant bien fournies parce qu'on a anticipé les choses. Donc là, c'est un autre problème, c'est un problème de répartition du nombre de médecins en fonction des demandes. Donc actuellement, en tout cas, vous voyez, hein, si vous cherchez par exemple autour de Paris à avoir une consultation de médecine générale, eh bien c'est un parcours de combattant.
D'accord. Ok, donc là, il y a une sorte d'inconnu aujourd'hui de comment cette décision qui a été prise de supprimer le numerus clausus va se traduire dans les faits dans les années à venir et quelle place vont prendre les universités là-dedans, finalement.
Alors, de toute façon, les universités vont être au premier plan. Ce qui est sûr, c'est que quand on discute, et pour moi, moi je suis fonctionnaire de l'université publique, quand on en discute avec les collègues, on a quand même l'impression globalement que il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir anticiper. Donc, on est un peu dans l'incertitude de comment ça va se passer. Alors, il va y avoir des moyens d'équilibrer un petit peu les choses, c'est-à-dire que il va y avoir des passerelles, c'est-à-dire que certains étudiants qui n'auront pas réussi à passer en deuxième année pourront revenir dans le parcours médecine en étant passés par exemple par un parcours de biologie ou autre à l'université.
Alors justement, l'université, ça c'est peut-être, en fait j'en sais rien, mais j'ai l'impression, une spécificité française, cette notion de centre hospitalier universitaire, ce CHU qu'on voit partout dans les grandes villes. Pourquoi ce lien à l'université? Comment ça marche? Est-ce que, donc, c'est spécifique à la France? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous qui justement êtes à la fois médecin et universitaire, pouvez-nous décrire un peu cet attelage?
Alors, les CHU, les centres hospitaliers universitaires, ont trois missions. Ils ont la mission du soin, on en a parlé, je pense, précédemment, c'est la prise en charge des patients. Une mission de recherche, donc de développement de recherche clinique ou translationnelle, et puis une mission d'enseignement. Et donc, l'organisation actuelle veut que, au sein de certaines grandes structures que sont les centres hospitaliers universitaires, donc en particulier la structure dans laquelle je travaille, qui est la PHP, se mélangent dans l'hôpital des soignants-chercheurs et des soignants-enseignants. Donc, on a au sein de ces structures-là des étudiants en médecine qui viennent apprendre leur métier dans les services, et donc il y a besoin d'enseignants dans ces services-là. C'est les universitaires qui vont de ce qu'on appelle les chefs de clinique assistants aux maîtres de conférences universitaires et aux professeurs des universités. Et ça, ça permet justement d'avoir une certaine émulation et de favoriser des axes de recherche, des axes d'enseignement en collaboration avec l'université qui est souvent rattachée juste à côté de l'hôpital. En l'occurrence, pour donner mon exemple, mon université se situe à peu près à 100 mètres de mon hôpital.
Oui, c'est souvent comme ça.
C'est quelque chose qui est assez simple, assez pratique, et ça permet justement de coordonner la recherche, l'enseignement et les soins.
Et alors, et je crois que c'est aussi comme ça ici à Grenoble, sur la recherche, c'est l'État qui décide des grandes orientations, des priorités de recherche, c'est quelque chose de très centralisé ou au contraire qui est laissé à l'autonomie des acteurs locaux, des hôpitaux et des pôles universitaires?
Alors, c'est difficile de dire que c'est les hôpitaux qui vont décider. Il y a une structure, l'organisation de la recherche et le financement de la recherche est mixte en France, c'est-à-dire qu'il y a un financement public et un financement privé. Alors ça, là-dessus, c'est quelque chose d'assez représentatif de la France. Il y a certains pays qui n'ont que de la recherche privée.
D'accord.
Donc, en l'occurrence, ça permet de développer des axes de recherche qui ne sont pas nécessairement dans l'axe de la recherche pour l'industrie du médicament, par exemple. Donc, ce financement public permet aux acteurs de l'hôpital public et aux chercheurs d'avoir justement la possibilité de financer telle ou telle recherche qui aura pour but, par exemple, de diminuer la charge de médicaments, réduire le coût ou améliorer la qualité des soins. Et donc, en fait, ces structures-là demandent des financements. Alors, il y a plein de façons d'obtenir des financements publics. Un ordre de financement possible, c'est ce qu'on appelle le PHRC, qui est un financement qui permet, pour une question de recherche, d'obtenir des financements entre 200 000 et 700 000 euros pour une recherche de type clinique, dont le but est d'améliorer la prise en charge des malades.
Ok, merci Stéphane. On va poursuivre cet échange dans quelques instants après un nouveau détour musical. Cette fois, c'est Pierce Faccini. La chanson, c'est Sons and Daughters.
Pockets full of lies, wearing down the bone. Life is but an ocean, a ship made of stone. A desert lane with thorns, and dogs are at your heels. A diamond in the light, and nothing shines for real. Sons and daughters, cursed and damned. Oh, sons and daughters, is this your land? Frozen over water, solid from the cold. so I'm told. Can't make out the puzzle, can't dig out the key. If I don't see my own eyes, I'll never find me. Oh, sons and daughters, just stand and oh, sons and daughters, is this your land? Your land? Your land? Your land? Your land? Inside a head, laughing at the ending, stopping me dead. Your land, your land, your land.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique politique. Et le dossier du jour, le fonctionnement de l'hôpital public que l'on décrypte en compagnie du professeur Gaudry. Stéphane, j'aimerais maintenant aborder avec vous la place de l'hôpital dans notre espace démocratique. Avec une première question, est-ce qu'on est tous égaux devant l'hôpital ? Alors, vous exercez en Seine-Saint-Denis, on connaît les difficultés socio-économiques de ce territoire. Est-ce que vous estimez que les conditions d'accueil, de soins sont les mêmes, par exemple, que dans le centre de Paris ou des grandes villes françaises ? Et si vous voyez différence, comment vous les décririez ?
Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que il y a beaucoup d'imaginaire là-dedans. Alors, on peut y répondre par oui et par non. Alors, pourquoi, on se retrouve avec des situations qui sont identiques, qu'on soit pris en charge au centre de Paris ou en périphérie, en Seine-Saint-Denis, tout simplement parce que la qualité des médecins et la qualité des services est assez bien répartie. Je donne un exemple assez simple. À l'hôpital de Bondy où je travaille, il y a un service d'hépato-gastro-entérologie qui est internationalement reconnu. Okay. De la même manière, dans un hôpital comme l'hôpital Beaujon à Clichy, là aussi, il y a un service de gastro et de chirurgie hépatique et pancréatique qui est également internationalement reconnu. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont dans le 93 ou le 92, on pourrait imaginer qu'ils sont dans des hôpitaux où ils ont des hôpitaux qui sont en difficulté, eh bien, vont avoir accès à une prise en charge de très, très haut niveau. Et ça, je pense que ça, c'est une des spécificités de la France. Il faut en être fier. Néanmoins, on peut également s'étonner d'une disparité, on va dire, de moyens, et en particulier tout simplement de moyens immobiliers. Quand on voit, il suffit d'aller visiter l'hôpital de Jean Verdier à Bondy, même s'il y a des experts internationaux dans certaines spécialités, eh bien on voit la différence avec d'autres hôpitaux, comme par exemple l'hôpital Necker ou l'hôpital Cochin.
En termes de locaux, vous voulez dire de bâtiments, de qualité de
locaux, voilà, de bâtiments, ne serait-ce que de propreté, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut visiter les choses. Et donc ça, pourquoi, pourquoi on a cette disparité? Ben, en grande partie parce que, en tout cas, je parle pour Paris et sa région, l'Île-de-France, ben, Paris, c'est l'image à l'international. Il faut montrer que les hôpitaux dans Paris sont, sont beaux, ont des beaux bâtiments avec du verre, du métal, c'est propre, etc. Parce que c'est l'image qu'on a. Et donc là, en ce sens-là, je pense qu'il y a une disparité de moyens et qu'il y a des différences. Mais néanmoins, par rapport à ce que je vous disais précédemment, je pense que le plus important reste quand même d'avoir accès au même niveau de soins, qu'on soit à Bondy ou qu'on soit en plein centre de Paris, dans le 14e ou dans le 15e arrondissement.
Et sur les urgences, est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous dites là sur... Est-ce qu'on est plutôt du côté positif, c'est-à-dire que vous alliez aux urgences dans le centre de Paris ou dans le centre de Toulouse ou de Marseille ou que vous alliez à Bondy ou à Bobigny, ce sera pareil? Ou est-ce que là, c'est plutôt... Il y a plutôt une différence qui... sur laquelle on pourrait essayer de bosser?
Alors oui, probablement il y a une différence. Pourquoi il y a une différence sur les structures de type urgence? Eh bien parce que tout simplement, où se trouve la population maintenant, encore une fois, autour des grandes villes? Elle ne se trouve pas dans la grande ville. Là où il y a le plus de malades, eh bien c'est en périphérie, c'est en banlieue. Et c'est là qu'on va avoir du coup le plus d'activité au sein des secteurs d'urgence. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, pour trouver un médecin généraliste en banlieue, c'est très compliqué maintenant. Oui. Et donc, aider les patients, ils vont dans les secteurs d'urgence qui surchargent du coup les urgences périphériques. Et donc, c'est sûr que là, vous êtes face à la politique du nombre. Hein. Si vous avez 800 malades qui passent dans un secteur d'urgence contre 400, il est sûr que là, vous allez avoir 400 pour à peu près le même nombre de médecins.
Oui, c'est ça.
Et bien, ou de personnel, vous allez être dans une situation plus confortable.
Donc ça, il y a quand même une question d'équité territoriale, ne serait-ce qu'en termes de volume, qui pourrait être travaillée, je dirais, dans les années à venir. Ça pourrait être un enjeu de santé publique, quoi.
C'est un enjeu de santé publique, mais vous mettez l'accent sur quelque chose qui est tout à fait d'actualité, c'est-à-dire quelle est la situation actuelle des secteurs d'urgence dans le secteur hospitalier public. Eh bien, c'est une situation catastrophique.
Ouais,
c'est-à-dire que l'augmentation de l'activité a été majeur ces dernières années, multiplié par deux dans certains endroits. Et la réponse qui a été donnée à cela, c'est de réduire le nombre de personnel. Et ça se voit partout. Mmh. Et donc, on aboutit à des catastrophes. Et le personnel, pour le personnel, hein, c'est-à-dire des situations de grande détresse au travail, et également pour les patients, bien entendu, qui voient la qualité des soins diminuer.
Et c'est là qu'intervient la question public-privé, c'est-à-dire que on a du coup, par rapport à ces difficultés que peut traverser l'hôpital, la tentation de basculer sur le monde privé, les cliniques, et puis au-delà de la tentation, la capacité ou non de le faire, et cette idée que les riches se tourneraient vers les cliniques privées pendant que les pauvres iraient à l'hôpital, est-ce que ça c'est en partie le reflet de la réalité? Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est pas du tout le cas?
Alors, ça commence à être quelque chose qu'on constate, hein, mais parce que la menace est forte. Mmh. Pourquoi la menace est forte? Parce que quand vous aboutissez à ce que des personnels dans certains hôpitaux, dans certains services sont à bout, puisqu'ils n'ont plus aucune reconnaissance de leur travail et parce que ils ont une charge de travail trop importante par rapport à un salaire extrêmement discutable. Hein. Faut voir ce que gagne une infirmière, faut voir ce que gagne un médecin spécialiste lorsqu'il n'a pas exactement le CV voulu. On aboutit à ce que ces gens-là, eh bien, se tournent vers le privé et vont travailler dans le privé en donnant une qualité encore supérieure, on va dire, à la prise en charge dans le privé. Et donc, il va y avoir une tension dans les années à venir. Elle est déjà là. Vu que le personnel est à bout à l'hôpital public, eh bien, il se tourne vers les hôpitaux privés. Et ces hôpitaux privés, ils ont bien compris ce qu'il fallait faire pour attirer les gens de qualité. Et ils ont comme politique de recruter les meilleurs en augmentant largement les salaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est assez caricatural, je vous donne un exemple très simple. La différence entre la paye d'un anesthésiste à l'assistance publique au Pierre-Hôtel de Paris, la paye d'un anesthésiste dans une clinique privée en Île-de-France peut varier du simple au quintuple.
Ah oui.
Au quintuple. C'est-à-dire que je ne sais pas qui dans une structure publique dirait non à un salaire multiplié par 5 pour aller travailler de l'autre côté de la rue dans une structure privée. Bah et vous... ça va mettre en tension énormément dans l'avenir notre bel hôpital public qui, comme je vous le disais, pour l'instant encore, a gardé ses meilleurs spécialistes.
Bah vous dites non, par exemple. C'est un exemple.
Comment ?
Vous dites non, par exemple, si on vous propose 5 fois plus dans le privé. Non, mais j'imagine qu'il y a... Ouais.
Oui, mais enfin, ma génération, parce que je ne représente plus la plus jeune génération. Ma génération, en effet, des quarantenaires, eh bien, on a en effet été élevé dans, on va dire qu'on a une reconnaissance de travailler dans le public, c'est pas que une reconnaissance salariale. Hein. Et puis on a des moyens pour faire de la recherche, on peut faire de l'enseignement. Tout ça, c'est très enrichissant. Et puis on côtoie les meilleurs. On côtoie les meilleurs, on apprend auprès des meilleurs. Et donc ça, c'est sûr qu'on a envie d'y rester à la science publique, enfin dans les hôpitaux publics. Néanmoins, les choses commencent à changer. Et les plus jeunes, à force justement d'avoir tiré sur la corde, eh bien commencent à se dire que dès le début de leur formation, ils ne resteront pas à l'hôpital public, ils partiront dans le privé dès la fin de leur formation.
Et du coup, pour faire tourner des boutiques privées avec des hauts salaires, par définition, il y a une sélection financière des patients qui vont devoir, qui auront des restes à charge du côté du privé bien plus élevés, de façon à faire tourner le modèle économique de ce côté-là.
Alors, il y a une double sélection, je dirais. Il y a une sélection sur le pouvoir d'achat, en effet, du patient, c'est-à-dire le plus riche va pouvoir bénéficier de certains soins. Mais il y a surtout une sélection sur l'activité. Si, par exemple, vous décidez d'ouvrir une clinique privée et que vous ne faites que de la pose de pacemaker, vous allez gagner de l'argent. Normalement, l'hôpital public ne peut pas ouvrir une structure en disant « je ne vais faire que de la pose de pacemaker ». Il va faire une prise en charge globale du patient avec des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes X et Y. Et au sein de tout ça, il y a éventuellement la pose de pacemaker qui peut rapporter de l'argent. Hein, parce que c'est tarifié à l'acte. Désormais, la santé est tarifée à l'acte. Et donc, il y a un choix du public et du privé. Et le privé a décidé, on peut le comprendre, de faire ce qui rapporte de l'argent.
Oui, c'est ça. Une sélection à ce qui rapporte. Parlons maintenant de la place de nous, des citoyens, des patients dans la gouvernance des hôpitaux. Est-ce que les patients ont leur mot à dire dans les choix, dans la gouvernance des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des instances où les patients sont représentés? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous assistez? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe?
Alors, il y a bien entendu les patients qui ont leur mot à dire. Il y a au sein des hôpitaux publics des commissions. Au sein de la PHP, il y a la commission centrale de concertation avec les usagers, et cette concertation avec les usagers, cette commission, écoute ce que les usagers ont à dire.
D'accord.
Mais au-delà de ça, quand on est face à des méga-structures comme la PHP, c'est le premier employeur d'Île-de-France.
D'accord.
Donc quand vous travaillez à la PHP, vous en êtes aussi l'usager. Donc finalement, les gens qui y travaillent peuvent aussi influencer la façon dont on va faire évoluer cette grande institution. Donc, il n'y a pas les usagers d'un côté et les employés de l'autre côté. Et souvent, c'est mélangé quand on sait qu'il y a 100 000 personnes qui travaillent à la PHP. C'est pas si simple.
Et de manière plus générale, est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens ont une capacité d'intervention dans les politiques de santé? Alors, je pense on voit de temps en temps des concertations qui sont organisées, par exemple, par le Comité national d'éthique sur la fin de vie, sur la PMA, sur des choses comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience de l'univers hospitalier, de l'univers de la santé, de l'importance de passer par cette case de consultation, de concertation avec les citoyennes et les citoyens?
Oui, je pense qu'en effet, l'objectif de l'hôpital public, c'est de s'occuper des citoyens. Donc, si on ne les écoute pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, en effet, ils doivent intervenir dans les choix, en fait, éthiques, comme vous l'avez dit, avec la Commission nationale d'éthique, avec les questions éthiques qui peuvent se poser avec l'avancée des connaissances et des techniques en médecine. Et donc, il faut absolument prendre en compte, bien entendu, leur avis. Mais il faut savoir aussi éclairer cela avec une vision de professionnel. Donc, c'est un mix des deux. La fin de vie, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, il faut éviter des discussions, on va dire, où il y a beaucoup, beaucoup trop d'émotions. Il n'y a pas que l'émotion, il y a aussi le côté professionnel de prise en charge qui permet d'avancer. Mais je dirais qu'il faut les deux, il faut le professionnel, il faut l'usager, il faut qu'ils discutent entre eux de ces choses-là. Maintenant, il y a autre chose, c'est que dans les, les usagers, il faut qu'ils, faut aussi, enfin les citoyens, je dirais de manière plus générale, doivent comprendre que la santé, elle a un prix, hein, c'est 9% du PIB en France, les dépenses de santé, et que plus on avance dans la connaissance, plus elle coûte cher, la prise en charge.
Et ça, ça va continuer? C'est-à-dire que...
Et ça, ça va continuer. Ouais. Ça va continuer. On est en train de développer actuellement dans le monde des systèmes qui permettent de faire des progrès dans la qualité de prise en charge des malades. Mais ces systèmes-là, ils ont un prix, qui commence à être extrêmement élevé, hein, même en termes de médicaments. Hein. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand le traitement de l'hépatite C était sorti, eh bien, les coûts étaient majeurs, hein, pouvant atteindre 35, 40 000 euros par malade. Bon, voilà, maintenant, on a certains traitements qui vont être bientôt proposés dans les maladies hématologiques, dont le coût sera 350 000 euros pour le patient. Donc, il faudra réfléchir quand même jusqu'où on va aller en termes de croissance, justement, de ces dépenses de santé. Là, bien entendu, c'est une décision qui relève
du politique.
De politique.
Ouais. Alors c'est étonnant parce que ça fait la boucle avec ce que disait Simone Veil dans notre extrait en 77 où elle parlait justement du coût du développement des nouvelles technologies. En fait, on y est encore et ça va encore s'accroître. C'est-à-dire que le choix politique, c'est d'assumer le coût que représentent des progrès pour la santé et la santé des patients.
Oui, tout à fait.
Ben, merci beaucoup Stéphane Gaudry. Merci professeur pour cet entretien. Je crois que on a essayé d'éclairer un petit peu les auditrices, les auditeurs. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était très agréable. À très bientôt.
Ça marche, merci. Pour nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la chronique Pendant ce temps à Veracruz, juste après un dernier morceau de musique. Et celui-ci, c'est Girls from the North Country. Et je vous laisse deviner qui sont les deux chanteurs. À tout de suite.
If you tell me to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the golden line, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging low, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging low, that's the way I remember her best. If you go where the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love. True love of mine, true love of mine, true love of mine.
C'est toujours la Fabrique politique sur Campus Grenoble 90.8. On arrive à la fin de l'émission consacrée aujourd'hui aux hôpitaux publics. Et pour la chronique pendant ce temps à Veracruz, j'ai trouvé un article sur le Royaume-Uni. Alors, il faut savoir que le Royaume-Uni est un des premiers pays, sinon le premier pays à avoir créé un système de santé publique, le National Health System, le NHS, qui fête ses 70 ans. Qui fêtait cette année, l'année dernière, ses 70 ans, en 2018, et le Guardian, un quotidien de Londres, écrivait ceci. À en croire un récent sondage, les deux tiers des Britanniques sont fiers de leur système de santé et le considèrent comme la plus grande réussite de l'histoire du Royaume-Uni. Devant la résistance face à Hitler en 1940 et l'abolition de l'esclavage. Mais il n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui avec sa version originale, lorsque 2750 des 3000 hôpitaux de Grande-Bretagne, jusque-là gérés par des œuvres de bienfaisance ou des autorités locales, étaient passés directement sous la tutelle des conseils de santé. En 7 décennies, le coût par personne du National Health System, le NHS, le système de santé publique financé par l'impôt, est passé de 260 livres par personne à 2273 livres par personne. Et il manque encore cruellement d'argent, estime le Guardian, même si la Première ministre Theresa May a promis d'augmenter son budget de 3,4% par an entre maintenant et 2024. Temps d'attente rallongé, aussi bien pour les urgences que pour les consultations de routine, prise en charge des maladies psychiatriques défaillantes, le Royaume-Uni perd des places au classement des pays de l'OCDE, note le quotidien. Afin de remonter la pente, une augmentation de 4% du budget annuel pourrait permettre à 70% des malades psychiatriques de recevoir une prise en charge contre seulement 40% aujourd'hui. Elle permettrait aussi d'augmenter les investissements, de réduire les délais d'attente et surtout de faire plus dans le domaine de la prévention afin d'éviter la survenue de maladies donc du recours au NHS. Mais l'argent n'est pas la seule solution. À plus long terme, l'ambition est d'introduire des méthodes de soins plus efficaces, notamment des services de proximité, voire des services à domicile. Face aux difficultés, la perspective d'une privatisation du service, n'est, selon The Guardian, pas d'actualité. Sachant que si certains services du NHS sont depuis toujours confiés au secteur privé, l'extension de la sous-traitance ne reçoit actuellement aucun soutien politique ni du peuple britannique. Voilà, on sent le parallèle avec la situation française, en fait, la question des hôpitaux publics, du système de soins publics se pose dans tous les pays qui en ont créé depuis des décennies et qui font face aux mêmes enjeux sur ce qu'on a dit aujourd'hui, la démographie médicale, la place du progrès technique, l'équité territoriale, autant d'enjeux qui seront majeurs dans les mois et les années à venir et qui sont aujourd'hui sur la table du gouvernement. Merci encore au professeur Gaudry de nous avoir accompagnés. Je vous rappelle que cette émission sera bientôt en podcast sur le site de Radio Campus. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.